Nicola et Giovanni, sculpteurs et architectes pisans. Dans la vie de Cimabue, nous avons parlé du dessin et de la peinture. Dans celle d'Arnolfo Di Lapo, de l'architecture. Dans celle de Nicola et Giovanni, nous nous occuperons de la sculpture et des importantes édifications que l'on doit au génie de ces deux artistes. En effet, leurs œuvres de sculpture et d'architecture appellent puissamment notre attention, non seulement par leur grandeur et leur magnificence, mais encore parce qu'elles dénotent plus d'invention et de goût dans la composition, une meilleure entente des attitudes et des mouvements, et enfin l'abandon de presque tous les errements de l'ancienne manière grecque, si grossière et si barbare. Tandis que quelques Grecs sculptaient les figures et les autres ornements de la cathédrale de Pise et du temple de San Giovanni, il se trouvait, parmi une multitude de marbres amenés par le flotte des Pisans, plusieurs sarcophages antiques que l'on voit aujourd'hui dans le Campo Santo. L'un d'eux représentait une chasse de Méléagre. Les nues et les draperies étaient d'un dessin parfait et d'une exécution merveilleuse. Les Pisans, frappés de la beauté de ce chef-d'œuvre, en décorèrent la façade de leur cathédrale près de la porte principale. Il servit le tombeau à Béatrix, mère de la comtesse Mathilde, si l'on en rapporte cette inscription gravée sur le marbre. Anno Dominici 1116, Cal August, obiit de Mathilda Felicis Memoriae Comitissima, quae pro anima genitricis suae de Beatricis Comitissae Venerabilis in ac tumba honorabili quiescentis, in multis partibus mirifice anc dotavit ecclesiam, quarum animae requiescunt in pace. Anno Dominici 1303, sub dignissimo operario Burgundio tadi occasione graduum fiendorum per ipsum circa ecclesiam supradictam, tumba superius notata bis translata fuit, tunc de celibus primis in ecclesiam, nunc de ecclesia in unc locum ut cernitis excellentem. Nicola étudia avec tant d'ardeur ce bas-relief et plusieurs autres bons morceaux antiques qu'il fut bientôt regardé comme le plus habile sculpteur de son temps. Depuis Arnolfo, Fuccio, architecte et sculpteur florentin, était le seul qui eut quelque renommée en Toscane. L'an 1229, il construisit à Florence l'église de Santa Maria Sopra Arno et grava son nom sur l'une des portes. Dans l'église de San Francesco d'Assise, il sculpta en marbre le tombeau de la reine de Chypre, entouré de nombreuses statues, parmi lesquelles on distingue celle de la reine, soutenue par un lion, emblème de son courage et de sa magnanimité. Nicola, n'ayant donc pas tardé à se montrer supérieur à ce Fuccio, fut appelé à Bologne, l'an 1225, pour faire le tombeau de Saint Dominique Calagora, premier fondateur de l'ordre des prêcheurs. Il le termina l'an 1231 et obtint des louanges générales, car jusqu'alors on n'avait encore rien vu de mieux. Il donna ensuite le modèle de l'église et d'une grande partie du couvent, et regagna Florence que Fuccio avait quitté pour se rendre à Rome où le pape Honorius venait de couronner l'empereur Frédéric. Fuccio suivit ce prince à Naples et fut employé à terminer le palais de Capoanna, aujourd'hui connu sous le nom de la Vicaria et le château del Uovo. Il fit aussi à Capoue les portes qui donnent sur le Volturne et deux parcs environnés de murailles pour le plaisir de la chasse, l'un à Gravina et l'autre à Melfi. Là ne se bornèrent point ses travaux, mais nous les passerons sous silence pour retourner à Nicola qui, pendant ce temps, s'exerçait non seulement à la sculpture, mais encore à l'architecture, qui commençait à s'améliorer dans toute l'Italie, et particulièrement en Toscane. Il est évident qu'il coopéra au moins par ses avis à la construction de l'abbaye de Settimo, quoique, dans le clocher, on trouve sur une tablette de marbre cette inscription « Guglielme fecit ». À la même époque, il fit à Pise le vieux palais degli Anziani, dont une partie a été abattue de nos jours par le duc Côme, afin de céder la place au palais et au couvent construits sur les plans et les modèles de Giorgio Vasari pour le nouvel ordre des chevaliers de Saint-Étienne. Pise voit encore plusieurs églises et palais à Nicola, qui, après le long interrègne de la bonne architecture, fut le premier à établir des piliers portant des arcs sur lesquels on élevait tout l'édifice. Il fut également le premier à piloter avec soin les endroits où il jetait ses fondements, de façon que, malgré le peu de consistance du sol, ses bâtisses acquéraient une extrême solidité. Il donna le modèle de l'église de San Michele, mais son chef-d'œuvre et son contredit le campanile de San Nicola. Cet édifice est octogone, en dehors et circulaire en dedans. Un escalier en spirale, au milieu duquel est un espace vide en forme de puits, conduit jusqu'au sommet. De 4 en 4 marches sont disposées des colonnes servant de support à des arcs rampants qui tournent autour du noyau. Du milieu de l'escalier, on voit le haut et le bas. D'en haut, on aperçoit facilement le bas, et vice-versa. Cette capricieuse invention fut plus tard mise en œuvre avec encore plus de succès sous Jules II, par Bramante, dans le Belvédère, et sous Clément VII, par Antonio da San Gallo, dans le Puy d'Orvieto, comme nous le dirons lorsqu'il en sera temps. Nicolas, non moins habile sculpteur qu'architecte, exécuta sous la portique d'une petite porte de San Martino in Lucca, on le voit une déposition de croix, un bas-relief qui donna l'espoir aux artistes d'alors que bientôt s'ouvrirait devant eux une voie meilleure. L'an 1240, Nicolas fournit à la ville de Pistoia le dessin de l'église San Jacopo. Il y fit ensuite décorer à grands frais, par des mosaïstes toscans, cette voûte qui aujourd'hui ne sert plus qu'à montrer avec quelle profusion on dépensa les trésors immenses pour élever des monuments qui n'excitent plus que notre risée. Il n'était pas difficile à Nicolas d'éclipser la renommée des sculpteurs et des architectes de la Romagne. Les églises de San Ippolito et San Giovanni da Faenza, de San Francesco et de Porto, la cathédrale de Ravenne, les maisons des Traversari, des Malatesti, le palais de Rimini et quantité d'autres édifices prouvent suffisamment que les Romagnols restaient bien au-dessous des Toscans. La même remarque peut s'appliquer avec autant de vérité aux Lombards. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder la cathédrale de Ferrare et les monuments élevés par le marquis Azzo. On verra alors combien ils sont loin du Santo de Padoue et de l'église des Frères Mineurs de Venise, noble et magnifique édifice dû au génie de Nicolas. À cette époque, beaucoup d'artistes, mus par une louable émulation, s'appliquèrent à la sculpture avec plus de zèle qu'ils ne l'avaient fait auparavant. À Milan, tous ces Lombards et ces Allemands qui travaillèrent à la cathédrale et qui se dispersèrent lorsque la guerre éclata entre les Milanais et l'empereur Frédéric, luttèrent entre eux et commencèrent à produire quelques bons résultats. On remarqua les mêmes progrès à Florence dès que Nicolas et Arnolfo eurent montré leurs premiers ouvrages. Nicolas sculpta en marbre la Vierge, le Saint Dominique et l'autre saint qui orne encore aujourd'hui la façade de la petite église de la Misericordia, qui fut bâtie d'après ses plans sur la place de San Giovanni. Dans ce temps, les Florentins avaient entrepris de renverser un grand nombre de tours qui menaçaient la sûreté du peuple dans les luttes fréquentes qui s'engageaient entre les Guelfes et les Gibelins. Mais ils se trouvèrent fort embarrassés pour détruire sur la place de San Giovanni la tour del Guarda Morto, qui avait une élévation extraordinaire. Ses murailles étaient si épaisses que l'on désespérait d'en venir à bout avec la pioche, lorsque Nicolas imagina de couper le pied de la tour d'un côté en l'étayant avec des chevaliers hauts d'une brasse et demie pour donner le temps d'opérer une tranchée d'une grandeur suffisante. Il mit ensuite le feu au chevalet et la tour s'écroula d'elle-même. Ce moyen ingénieux a toujours été employé depuis avec succès. Nicolas présida aux premières fondations de la cathédrale de Ferrare et dessina le temple de San Giovanni dans la même ville. Il revint avec les Guelfes à Florence où il donna les plans de l'église de la Santa Trinita et du monastère des religieuses de Faenza, que l'on a remplacé aujourd'hui par la citadelle. Il fut ensuite appelé à Naples, mais pour ne pas abandonner ses travaux en Toscane, il envoya son élève Maglione, sculpteur et architecte, autour de l'église de San Lorenzo de Naples, d'une partie de l'évêché, et de plusieurs mausolées dans lesquelles il imita fortement le style de son maître. L'an 1524, Nicolas fut forcé de se rendre aux prières des habitants de Volterre, qui voulaient agrandir leur cathédrale, et il s'acquitta de cette tâche à leur satisfaction. De retour à Pise, désirant laisser de soi un souvenir à sa patrie, il sculpta en marbre la chair de San Giovanni et représenta entre autres choses le jugement universel. Ses figures sont sinon parfaites de dessin, du moins travaillées avec un soin et une patience incroyables. Comme il pensa avec raison avoir fait une œuvre digne d'éloge, il grava au bas ses vers « Anno mileno bis centum bisque trideno hoc opus insigne sculpsit Nicola Pisanus ». Les Siennois, excités par la réputation de cet ouvrage, confièrent également la chaire de leur cathédrale à notre artiste, qui l'orna avec succès de plusieurs sujets tirés de la vie de Jésus-Christ. Il donna ensuite au seigneur de Pietramala le dessin de l'église et du couvent de San Domenico d'Arezzo, et, cédant aux prières de l'évêque d'Eli Ubertini, il restaura l'église de Cortona et jeta les fondements de celle de Santa Margherita pour les moines de Saint-François. Tant de travaux ajoutés chaque jour à la renommée de Nicolas. Aussi, l'an 1267, il fut invité par le pape Clément IV à aller à Viterbe, où, entre autres choses, il restaura l'église et le couvent des Dominicains. De Viterbe, il se rendit à Naples, auprès du roi Charles Ier, qui, en mémoire de la victoire qu'il avait emportée sur Conradin, lui fit élever sur le champ de bataille de Tagliacozzo une église et une abbaye magnifiques, destinées à recevoir les ossements des guerriers qui avaient succombé dans cette sanglante journée. Des moines devaient prier jour et nuit pour le salut de leurs âmes. Nicolas répondit pleinement au désir du roi Charles, qui l'accabla d'honneur et de présents. De Naples, il retourna en Toscane et s'arrêta à Orvieto, où il sculpta en marbre, pour la façade de l'église Santa Maria, plusieurs statues et ses deux histoires du jugement universel, le paradis et l'enfer. Il s'efforça de donner aux figures des bienheureux toute la beauté possible et aux démons qui tourmentent les âmes damnées les formes les plus étranges et les plus hideuses. Il se surpassa lui-même dans cet ouvrage qui fut beaucoup admiré. Un des fils de Nicolas, nommé Giovanni, apprit de lui la sculpture et l'architecture, et en peu d'années réussit non seulement à l'égaler, mais encore à le surpasser. Aussi, sur ses dernières années, Nicolas lui laissa la direction de ses affaires et de ses travaux, et se retira à Pise pour y vivre tranquillement. Giovanni fut appelé à Pérouse pour exécuter en marbre le tombeau d'Urbain IV qui venait de mourir, et celui de Martin IV. Il ne reste plus que des fragments épars de ces deux mausolées, qui furent détruits lorsque les habitants de Pérouse agrandirent leur évêché. À cette époque, un moine ayant réussi à conduire dans la ville, au moyen de tuyaux de plomb, les eaux du Mont Paciano, Giovanni fut chargé de composer tous les ornements de la fontaine, tant en bronze qu'en marbre. Il disposa un triple rang de bassins, l'un au-dessus de l'autre. L'inférieur repose sur un soubassement de 12 degrés à 12 pans. Le bassin du milieu est porté par des colonnes qui portent sur le centre de celui d'en bas, et le troisième a pour support un groupe de trois figures. Les deux premiers bassins sont de marbre, le plus élevé est en bronze, ainsi que les griffons qui jettent de l'eau tout alentour. Giovanni grave son nom sur cette fontaine qui coûta 160 000 ducats d'or. L'an 1560 environ, Vincenzo Danti, sculpteur, répara d'une manière fort ingénieuse les conduits qui avaient été en grande partie gâtés. Après avoir achevé cet ouvrage, Giovanni, désirant revoir son vieux père qui était malade, quitta Pérouse. Mais il fut forcé de s'arrêter à Florence pour travailler au moulin de l'Arnaud près de la place de Mozzi. Bientôt, à la nouvelle de la mort de son père, il partit pour Pise, où il fut accueilli avec honneur par les citoyens qui se réjouissaient de voir que l'héritier de la fortune de Nicolas l'était aussi de son mérite. L'occasion d'éprouver les talents de notre artiste ne tarda pas à se présenter. Les travaux qu'on lui confia dans la petite mais très riche église de Santa Maria della Spina, ainsi que dans l'oratoire où il traça le portrait de son père, justifièrent toutes les espérances qu'il avait fait concevoir et lui valurent d'être choisi pour diriger la magnifique entreprise du Campo Santo, vaste cimetière public que les Pisans désiraient depuis longtemps afin de ne pas encombrer de tombeau leur cathédrale. Nicolas éleva alors ce vaste monument que nous admirons aujourd'hui. On lit sur la porte principale l'inscription suivante « A.D. 1283 Tempore Domini Friderigi Archiepiscopi Pisani Domini Tarlati Potestatis Operario Orlando Sardella Joanne Magistro Edificante ». La même année, c'est-à-dire en 1283, Giovanni se rendit à Naples où il fit bâtir le Castel Nuovo par ordre du roi Charles. Des maisons, des églises occupaient l'emplacement destiné à ce château. On les jeta par terre, ainsi qu'un couvent des religieux de Saint-François, les récollets. Mais ce dernier fut reconstruit par Giovanni sous le nom de Santa Maria Novella, dans un autre endroit et sur un plan plus vaste et plus riche. Lorsque ces constructions furent assez avancées, Giovanni se mit en route pour la Toscane. Mais on le força de s'arrêter à Sienne pour faire le modèle de la magnifique façade de la cathédrale. En 1286, il fut conduit à Arezzo par l'évêque Guglielmo Ubertini. On élevait alors l'évêché sur les destins de Margaritone. Là, notre artiste sculpta pour le maître-autel la Vierge avec son fils, entre le pape Saint Grégoire représenté sous les traits d'Honorius IV et Saint Donato, protecteur de la ville. Le corps de cet évêque repose sous l'autel avec ceux de Saint Antilia et de plusieurs autres saints. Giovanni enrichit son ouvrage de mosaïques et d'émaux sur argent, habilement incrustés dans le marbre, et comme l'autel est isolé, il orna les côtés de petits bas-reliefs représentant les sujets tirés de la vie de Saint Donato. Puis, il plaça dans quelques niches les statuettes de marbre d'un travail précieux. Sur la poitrine de la Vierge, il y avait un chaton d'or qui, dit-on, renfermait des joyaux de grande valeur qui furent emportés pendant les guerres par des soldats impies avec plusieurs figurines. Cet ouvrage coûta aux Arétins 30 000 florins d'or et fut beaucoup admiré par Frédéric Barberousse lorsque cet empereur passa à Arezzo après son couronnement. Dans la même église, Giovanni fit pour la noble famille des Ubertini une chapelle pleine d'ornements de marbre que, l'an 1535, Giorgio Vasari remplaça par une autre grande décoration en pierre de Macigno, servant de support à un orgue d'une beauté et d'une bonté extraordinaire. Je ne dois pas cacher que pour exécuter son autel de marbre, Giovanni employa plusieurs Allemands, retenus près de lui moins par l'appât du gain que par le besoin de s'instruire. Sous sa discipline, ils acquirent une telle habileté que le pape Boniface VIII leur confia de nombreux travaux de sculpture et d'architecture à San Pietro et à Civita Castellana. Giovanni se les adjoignit encore pour sculpter ces figures de marbre qui ornent la façade de Santa Maria d'Orvieto. À Arezzo, Il est compté parmi ses aînes Agostino et Agnolo, sculpteurs et architectes siennois, qui plus tard laissèrent leur rêve bien loin derrière eux, comme nous le dirons lorsqu'il en sera temps. D'Orvieto, Giovanni se rendit à Florence pour voir l'édifice de Santa Maria del Fiore et pour connaître Giotto, dont il avait beaucoup entendu parler. Il ne fut pas plus tôt arrivé que les fabriciens de Santa Maria del Fiore lui donnèrent à faire, au-dessus de la porte qui conduit au cloître, une madone entre deux petits anges, et de plus, le petit baptême de Saint-Jean qu'il orna de bas-relief, dont les sujets étaient tirés de la vie de ce saint. Il alla ensuite à Bologne, où il disposa convenablement la grande chapelle de l'église de San Domenico, dans laquelle l'évêque Teodorico Borgognoni lui commanda d'élever un autel en marbre. Pour la même église, il sculpta, l'an 1298, un bas-relief où l'on voit la Vierge, et 8 figures d'un très bon style. L'an 1300, le cardinal Nicolas, légat du pape à Florence, lui fit restaurer les couvents de San Domenico et de Pistoia, et construire à Prato un couvent de religieuses dédié à Saint Nicolas, son patron. Les habitants de Pistoia, en souvenir des services que leur avait jadis rendus Nicolas, confièrent à son fils Giovanni l'exécution d'une chaire en marbre semblable à celle qu'il avait déjà faite dans la cathédrale de Sienne. Giovanni devait lutter contre un Allemand qui venait de terminer dans l'église de San Giovanni Evangelista, une chaire qui avait mérité de nombreux éloges. Il lui fallut 4 années pour mener à fin son ouvrage, qui représentait 5 sujets tirés de la vie de notre Seigneur et le jugement universel. Il traita ce dernier morceau avec un soin tout particulier, dans l'espoir d'égaler, peut-être même de surpasser, le chef-d'œuvre d'Orvieto. Puis, pour exprimer l'idée qu'il avait de son travail, il grava sur une architrave les vers suivants « Hic opus cupsit Johannes, qui res non egit inanes, Nicolanatus, meliora beatus, quem genuit pisa, doctum super omnia visa. » Dans le même temps, Giovanni fit encore, dans l'église San Giovanni Evangelista, un bénitier de marbre soutenu par les statues de la tempérance, de la prudence et de la justice. Cet ouvrage, que l'on admire beaucoup, fut placé au milieu de l'église comme une chose précieuse. Avant de quitter Pistoia, Giovanni donna le modèle du campanile de San Jacopo, sur lequel on lit aujourd'hui la date de 1301. Bientôt, il fut appelé à Pérouse pour élever dans l'église de San Domenico un tombeau de marbre en l'honneur de Benoît IX qui venait de mourir. Il représenta ce pape couvert de ses habits pontificaux et le plaça entre deux anges au-dessous de la Vierge accompagné de deux saints. Il fit également le tombeau de Messer Niccolò Guidalotti, évêque de Recanati et fondateur de la Sapienza de Pérouse, dans la nouvelle église des Dominicains, dont il construisit la nef du milieu avec beaucoup d'habileté. Malheureusement, les architectes qui le précédèrent avaient négligé d'appuyer cet édifice sur de solides fondements, de sorte que, maintenant, il penche d'un côté et menace ruine. Quand on entreprend des travaux importants, on doit consulter des gens capables et instruits, et non des ignorants si l'on veut éviter la honte et le chagrin du repentir. Après avoir achevé ses travaux à Pérouse, Giovanni voulait aller à Rome pour étudier, à l'exemple de son père, quelques fragments d'antiquité. Mais de justes raisons l'empêchèrent de réaliser ce projet. Il retourna donc directement à Pise, où Nello Falconi lui donna à faire la grande chaire de la cathédrale qui est à ma gauche, près du chœur, en marchant vers l'autel. Il exécuta, tel qu'on la voit aujourd'hui, et la fit reposer sur des figures hautes de 3 brasses et sur des colonnes supportées par des lions. Les bords de cette chaire sont ornés de sujets tirés de la vie de Jésus-Christ. Cet ouvrage, dont le dessin, la composition et le style sont très défectueux, dut néanmoins émerveiller les hommes de ce temps qui s'étaient accoutumés à ne voir que des choses lourdes et grossières. Il fut terminé l'an 1320, comme nous l'apprennent les vers que l'on trouve autour de la chaire et qui commencent ainsi « Laudo Deum Verum, Perquem sunt optima rerum » Qui dedit asporas homini formare figuras, hoc opus is anis domini sculpsere Johannis, arte manus solo quondam natique Nicole, cursis ventenis tercentum, milleque plenis, etc. Il est inutile de rapporter les 11 derniers vers, car ceux-ci suffisent pour prouver que la chaire est due aux ciseaux de Giovanni. Il fit encore au-dessus de la porte principale de la cathédrale, entre Saint Jean-Baptiste et un autre saint, une vierge, ayant à ses pieds un homme agenouillé, que l'on dit être Piero Gambacorti, intendant de la fabrique. Au-dessus de la vierge, on grava ces paroles. « Sub petri cura aec pia fuit sculpta figura, Nicoli nato sculptore Giovanni Vocato. » Giovanni sculpta également, au-dessus de la porte latérale, près du campanile, une autre vierge, l'empereur Henri et la ville de Pise sous l'emblème d'une femme accompagnée de 2 enfants. Au-dessous de la vierge, on lit ces paroles. Ave gratia plena, Dominus tecum, nobilis arte manus clupsit Johannes Pisanus, Scripsit sub Burgundio iadi benigno. Au-dessous de la ville de Pise, Virginis Ancilla sum Pisa cuieta sub illa. Et enfin, sur la base de la statue d'Henri, Imperat Henricus qui Christo fertur amicus. Depuis nombre d'années, Uberto, prévôt de la vieille église paroissiale de Prato, avait déposé sous l'autel de la grande chapelle la ceinture de la Vierge que Michele de Prato avait rapportée de la Terre Sainte en 1141. Cette ceinture était l'objet de la vénération de tous les fidèles lorsqu'un homme de mauvaise vie, espèce de cerf chapelletto, essaya de la voler en 1312. Heureusement, il fut découvert et condamné à mort comme sacrilège. Les habitants de Prato, afin de prévenir une nouvelle tentative de ce genre, eurent recours à Giovanni, qui leur fit bâtir dans la grande église la chapelle où l'on conserve aujourd'hui cette précieuse relique. En même temps, malgré son âge avancé, il donna un dessin d'après lequel on agrandit considérablement l'église, que l'on revêtit extérieurement, ainsi que le campanile, en marbre noir et blanc. Enfin, Giovanni mourut chargé d'années. L'an 1320, après avoir fait quantité d'ouvrages de sculpture et d'architecture dont nous n'avons pas parlé, Giovanni et Nicolas, son père, méritent toute notre reconnaissance, car ils ont puissamment contribué à dissiper les ténèbres épaisses qui enveloppaient les arts depuis des siècles. Giovanni fut honorablement enterré dans le Campo Santo, à côté de son père. Parmi ses nombreux et habiles élèves, on distingue Lino, sculpteur et architecte siennois qui fit dans la cathédrale de Pise des fonds baptismaux et la chapelle qui renferme le corps de Saint Ranieri. On ne doit pas s'étonner du nombre des ouvrages de Nicola et de Giovanni, car tous deux eurent une longue vie. Et, se trouvant les premiers maîtres de leur temps, en Europe, ils furent appelés à présider à toutes les grandes entreprises, comme le témoigne une foule d'inscriptions. Puisque, à propos de ces deux artistes, nous avons déjà parlé de plusieurs monuments de Pise, nous croyons pouvoir, avant de terminer, faire encore mention du vase placé sur la colonne de Porphyre que l'on trouve au-dessus des escaliers que conduisent au nouvel hôpital, et autour du soubassement de laquelle on lit ces paroles. Questo è il talento che Cesare Imperatore diede a Pisa, con lo quale si misurava lo censo che a lui era dato, lo quale è edificato sopra questa colonna e leone nel tempo di Giovanni Rosso, operaio dell'Opera di Santa Maria Maggiore di Pisa, A.D. 1313, indizione seconda di marzo.